Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À toutes et à tous, bonjour, chers amis auditeurs, ravis de vous retrouver. En ce dimanche 6 décembre 2020, j'ai le plaisir de vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique, qui se penche sur l'approche contradictoire de l'Europe face au JCPOA, l'accord historique nucléaire de 2015. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Iran poursuivra légalement la fuite d'un rapport confidentiel de l'AIOA. L'agression saoudienne ne peut plus durer et se trouve dans sa phase finale après avoir reçu des coups successifs, déclaration du porte-parole des forces armées yéménites Yahya Sari. Et puis, les violences à Paris en région lors de la manifestation contre la loi sécurité global. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran poursuivra légalement la fuite d'un rapport confidentiel de l'AIOA, le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, a critiqué la fuite du récent rapport confidentiel de l'Iran à l'AIOA par un média occidental, affirmant que l'Iran poursuivrait sérieusement la question par les voies légales dans les plus brefs délais. S'adressant samedi au réseau national Khabar, Kazem Gharibabadi a ajouté que les objections et les poursuites judiciaires de l'Iran contre l'AIOA pour le manque de protection des informations confidentielles remontaient à plus de 2 décennies. Tous les rapports relatifs aux accords de garantie et au JCPOA, l'accord nucléaire iranien de 2015, ainsi que les correspondances de l'Iran avec l'AIOA et vice-versa, sont confidentiels. L'Iran estime que l'AIOA a la responsabilité principale de protéger les informations confidentielles. Et si ce mécanisme d'information est défectueux, il devrait être fondamentalement révisé et amendé, a déclaré M. Gharibabadi. Vendredi, l'ambassadeur iranien a critiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique AIOA pour avoir révélé le contenu d'un rapport confidentiel fourni par Téhéran sur le projet de l'Iran d'installer 3 nouvelles cascades de centrifugeuses sur le site de Natanz et a rappelé que l'organisme est chargé de protéger les informations confidentielles des pays en matière de garantie. L'actualité régionale avec le Yémen, l'agression saoudienne ne peut plus durer, je vous le dis en titre, et se trouve dans sa phase finale après avoir reçu des coups successifs. Déclaration du porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sari. L'agression militaire saoudienne contre le Yémen est dans sa phase finale après avoir subi des défaites successives portées par les forces de résistance, a-t-il dit. Le général de brigade, Yahya Sari, a déclaré samedi que les occupants et leurs mercenaires qui ont versé le sang d'innombrables innocents sont voués à se plier, a rapporté la chaîne de télévision Al-Masira. Les dirigeants yéménites, a-t-il ajouté, ont émis une amnistie générale pour tous ceux qui veulent revenir sur la bonne voie et arrêter le massacre des yéménites. L'Arabie saoudite a lancé une incursion militaire dévastatrice contre le Yémen en mars 2015, en collaboration avec un certain nombre de ses États alliés, tels que les Émirats arabes unis, avec le soutien des États-Unis et de plusieurs pays occidentaux fournisseurs d'armes. L'objectif était de ramener au pouvoir le régime soutenu par Riyad de l'ancien président démissionnaire Abd Rabbo Mansour Hadi et de vaincre le mouvement révolutionnaire et populaire Ansar Allah qui a pris le contrôle des affaires de l'État. Les Israéliens ont organisé de nouvelles manifestations contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Rots occupé. Un homme est tué en voiture et 30 sont arrêtés lors des manifestations contre Benjamin Netanyahou. Un homme a été tué ce samedi dans l'une des manifestations qui, pour la 24e semaine consécutive, ont eu lieu en Israël contre le Premier ministre extrémiste et qui ont également abouti à 30 arrestations. L'homme de 82 ans, qui était le père du PDG de Facebook dans les territoires occupés, a été écrasé dans la ville de Savion par une jeune femme, bien que la police ait exclu que c'était volontairement après interrogatoire selon des Jerusalem Post. Les manifestants se sont rassemblés devant la résidence de Netanyahou pour condamner sa politique et appeler à sa démission. La manifestation a eu lieu malgré l'interdiction de rassemblement. Les Israéliens ont organisé des rassemblements de rue au cours des derniers mois pour protester contre la flambée du chômage, une augmentation des infections au Covid-19 et un retour des restrictions au coronavirus. Les accusations de corruption auxquelles le Premier ministre est confronté viennent s'ajouter au sentiment anti-régime. Netanyahou a été jugé en mai pour corruption, fraude et abus de confiance, mais il nie tout acte répréhensible. Direction la France, avec des violences à Paris et en région lors de la manifestation contre la loi Sécurité globale. Ce 5 décembre, lors de la manifestation contre la loi Sécurité globale, les forces de l'ordre ont dû faire face à de nombreux actes de violence et de dégradation. À Paris, comme dans certaines grandes villes, comme Nantes et Toulouse, la situation a dégénéré. Des gaz lacrymogènes, des affrontements, du vandalisme, l'intrusion violente au sein de la manifestation d'individus cagoulés, des interpellations. La manifestation du 5 décembre contre la loi Sécurité globale a une nouvelle fois été le théâtre de violences, comme l'ont notamment filmé les correspondants des médias sur place. Les tensions sont ensuite montées d'un cran avec des départs de feu et des tentatives d'installation de barricades. Plusieurs véhicules ont été incendiés, les forces de l'ordre ont été contraintes une nouvelle fois de reculer. Selon la presse française, au moins 6 voitures et un camion stationnés le long de l'avenue Gambetta dans le 20e arrondissement ont été incendiés. La situation est restée très tendue jusqu'à 20h sur la place de la République où se terminait la manifestation. De nombreux feux ont été allumés sur la place. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter et signalé qu'il y avait eu 8 blessés parmi les forces de l'ordre. On reste toujours en Europe avec les négociateurs en chef de l'Union européenne et du Royaume-Uni sur le Brexit qui font un dernier effort pour sortir de l'impasse pendant des mois sur les futures relations commerciales entre Londres et Bruxelles. Michel Barnier de l'Union européenne et son homologue britannique David Frost reprennent les pourparlers pour tenter une fois de plus de trouver un terrain d'entente sur les questions critiques qui ont divisé les deux parties en mars. Cette prolongation est intervenue après que le Premier ministre britannique Boris Johnson et la chef de l'Union européenne Ursula von der Leyen ont tenu un appel téléphonique d'urgence samedi. Les deux parties ont convenu que des divergences importantes subsistaient, mais que les négociations devraient se poursuivre. La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne fin janvier, mais reste soumise aux règles commerciales de l'Union européenne. Les deux parties doivent parvenir à un accord avant la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre. On se rend en Amérique latine, plus précisément au Venezuela, où les observateurs iraniens supervisent le déroulement des élections législatives. Les Vénézuéliens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour les élections législatives, au cours desquelles le Parti socialiste unifié du Venezuela et du président Nicolas Maduro compte gagner avec une majorité écrasante. Le vote décidera du sort de 227 sièges à l'Assemblée nationale. Nicolas Maduro s'est engagé à démissionner immédiatement si son parti perd les élections. Le scrutin a été boycotté par un certain nombre de partis d'opposition, y compris le parti indépendant du chef de l'opposition soutenu par les États-Unis, Juan Guaido. Il a qualifié le scrutin de fraude, affirmant que les conditions d'un vote libre et équitable n'existaient pas. Les élections interviennent au milieu de la campagne de pression et de sanctions des États-Unis et de l'Europe pour forcer Maduro à quitter ses fonctions. Acharnés toujours dans leur politique interventionniste et arrogante, les gouvernements occidentaux avaient déclaré unilatéralement Guaido comme président vénézuélien. Aux États-Unis, des affrontements éclatent dans l'État américain de Washington lors des contre-rassemblements opposant les manifestants antiracistes et les partisans du président sortant Donald Trump. La violence a éclaté après que des membres du mouvement politique antifasciste, Antifa, vêtus de costumes noirs et brûlés des drapeaux américains lors d'un rassemblement baptisé Squash Fasciste dans la capitale de l'État, Olympia. Les contre-manifestants ripostaient en battant des membres d'Antifa avec des poteaux de drapeaux américains et Trump. La police a déclaré qu'il y avait eu au moins une arrestation après qu'un partisan pro-Trump ait tiré une arme de poing sur la foule adverse. Des manifestations antiracistes étaient également prévues ailleurs, notamment à Saint-Paul et à Minneapolis. Les États-Unis ont connu un certain nombre de manifestations contre le racisme depuis la mort de George Floyd aux mains d'officiers blancs fin mai. Enfin, les Guatémaltèques sont descendus dans la rue pour un troisième samedi consécutif pour protester contre le gouvernement du président Alejandro Giammattei. Les manifestants ont défilé dans la capitale Guatemala City, portant des banderoles et des pancartes tout en scandant des slogans anti-gouvernementaux. Ils ont exigé la démission de Giammattei, qu'ils accusent de corruption. Les troubles ont suivi l'adoption d'un budget fédéral il y a plus de deux semaines. Vendredi, Giammattei a cependant assuré au public que le budget comprendrait des mécanismes de transparence et de responsabilité. Les troubles ont fait boule de neige dans un mouvement plus large. Les gens soulignent maintenant d'autres problèmes sociaux. Économique. Le Guatemala fait face à une crise économique car il doit faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus et de deux tempêtes majeures. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. L'approche contradictoire de l'Europe face à l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015. La France et l'Allemagne, qui semblaient être les principaux défenseurs du maintien de l'accord nucléaire avec l'Iran, ont récemment appelé à la réforme du JCPOA, l'accord nucléaire iranien de 2015, pour amener les États-Unis à cet accord. Mais ces deux pays restent muets sur le non-respect des engagements européens et américains dans le cadre du JCPOA. Les Européens reconnaissent que l'accord nucléaire est une réalisation majeure dans le monde de la diplomatie et de la politique étrangère. Ils espéraient que cet accord stabilise la région depuis longtemps en crise afin qu'ils puissent reprendre leur commerce extérieur avec les pays de la région, y compris avec l'Iran. L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont été des acteurs clés dans les longues négociations qui ont abouti à l'accord nucléaire après deux ans d'âpres négociations. Cependant, le retrait unilatéral des États-Unis en 2018, moins de trois ans après la signature du JCPOA, et le retour des sanctions économiques, en plus de détruire la confiance de l'Iran en Occident, sont devenus une excuse pour que les Européens se retirent de leurs engagements sous la pression de Washington. Depuis que l'administration Trump s'est retirée du JCPOA, la Troïka européenne a toujours parlé de la nécessité de maintenir l'accord de Vienne et de ramener les États-Unis à leur engagement au titre de cet accord international. mais leurs demandes sont restées juste dans la phase verbale et ces trois pays européens n'ont rien fait pour améliorer la situation. À la suite de la répression américaine contre le peuple iranien, les institutions financières et économiques européennes reniaient leurs engagements envers leurs partenaires iraniens et se sont jointes aux pressions américaines. Par exemple, l'on peut citer le refus des banques européennes de transférer de l'argent vers et depuis l'Iran. Certes, ceux qui n'ont pas réussi à maintenir l'ordre et qui ont resté silencieux face aux actes illégaux et unilatéraux des États-Unis paieront un prix très cher pour cette erreur, étant donné que la sécurité du Moyen-Orient est liée à la sécurité européenne. Et en effet, en soutenant l'accord nucléaire iranien, les Européens pouvaient garantir leur sécurité future.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cet attentat terroriste qui a coûté à un savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Les autorités militaires, les autorités géopolitiques ont souligné sur la nécessité de se venger, de venger la mort en martyr de ce savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Les parlementaires iraniens ont approuvé un plan de double urgence qui enjoint au gouvernement iranien d'accélérer le processus des activités de nucléaires iraniennes si les parties signatrices de ce qu'on appelle l'accord nucléaire iranien de 2015 refusent toujours d'honorer leurs engagements pour la levée des sanctions pour la vente du pétrole iranien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Pour entamer notre débat d'aujourd'hui, on va partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre un spécialiste français des questions internationales qui est avec moi au téléphone. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Nerostine. Bonjour à tous nos auditeurs. Et vraiment, un grand merci pour nous avoir invités pour cette grande affaire là, de l'assassinat de M. Fakhrizadeh.
Merci. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet après cet assassinat. L'Iran dit de s'arroger le droit de riposte. C'est l'Iran qui a mobilisé ses moyens politique. Je viens de faire allusion tout à l'heure à ce plan de double urgence qui avait été voté par les parlementaires iraniens et également de s'arroge le droit sur le plan militaire. Je viens de faire allusion à cette prise de position des autorités militaires iraniennes, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Salami, le ministre iranien de la défense, le général Hatami, qui, après cet assassinat, ils ont insisté sur la nécessité de riposter, de fournir une riposte digne de nom foudroyante à cet assassinat. Et comment expliquez-vous, en fait, cette prise de position du côté de Téhéran en ce qui concerne, si vous voulez, les responsables politiques et militaires, M. Dortiguier?
C'est-à-dire qu'il est entendu qu'il est tout à fait normal, disons, que l'attentat contre ce physicien soit compris justement comme une attaque de l'Iran même, c'est-à-dire attaque contre sa volonté de défense, de se défendre, de se perfectionner dans ce sens-là, non seulement dans le domaine atomique, comme on le dit, mais également d'autres domaines, dans s'occuper de grands physiciens en question, à savoir la lutte, la défense anti-aérienne, et ainsi de suite. Mais ceci, c'est un aspect que je dirais être extérieur, tout à fait normal. C'est une réaction nationale, disons, à une atteinte portée à la nation, à l'intégrité de la nation, à la sûreté, à la sécurité de la nation. Il y en a un deuxième que j'évoque très rapidement, M. Norosting. C'est, je dois dire qu'ayant suivi une actualité depuis déjà le début des années 2010, j'ai observé que ces attentats dirigés contre des ingénieurs de haut rang iraniens, je me souviens de trois d'entre eux, de trois attentats en tout cas, contre leur voiture avec des moyens perfectionnés et autres, supposent qu'il y a aussi, implique qu'il y ait des organisations intérieures qui soient, disons, capables de couvrir ceci, disons, et donc il semble qu'il faille qu'il y ait, que le corps iranien doive avoir deux yeux, un tourné vers l'extérieur du pays et l'autre tourné à l'intérieur du pays, car la sécurité extérieure dépend également de la sécurité intérieure et vice-versa.
Mais la sécurité intérieure, M. Dorsiguier, est pleinement assurée. Qu'entendez-vous par, en fait, de cette sécurité intérieure, M. Dorsiguier ?
Bien sûr, elle est assurée sur le plan formel, nous n'en doutons pas. Mais il est certain qu'il y a, à notre avis, c'est le sentiment en tout cas que nous avons eu dès le début de ces premiers attentats d'autrefois, qu'il y a, disons, que l'audace des adversaires de l'Iran, audace incarnée par exemple par M. Netanyahou, qui avait cité le nom donc, de M. Farizadeh, en disant qu'il fallait retenir ce nom, vous vous souvenez de cela, je crois que c'est en 2018 qu'il a dit, eh bien, ils ne peuvent avoir cette insolence que s'ils savent pouvoir compter sur une minorité, que je dis minorité, disons, sur l'existence de groupes qui peuvent, disons, sans lesquels une telle agression, disons, ne serait pas possible. Et je crois que sans cela, les adversaires de l'Iran n'auraient pas cette insolence. Donc la sécurité intérieure signifie, que je pourrais traduire ainsi, signifie qu'il faut également avoir, non pas un regard précis, mais un regard attentif contre des groupes, bien sûr, ou des gens qui, finalement, ont vendu leur âme au diable, vous savez, c'est-à-dire sont des traîtres. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre mot. Hein, même qu'il y a des vivants et des morts, il y a des patriotes, il y a des traîtres. Et je dois dire que l'audace des ennemis de l'Iran, disons, joue là-dessus. Et je dois dire que c'est ce qui fait leur insolence, c'est ce qui fait que M. Netanyahou, par exemple, a pu même, voyez-vous, brandir le nom de ce physicien martyr. C'est quand même
là, vous faites allusion, M. Dorsiguier, vous faites allusion aux actes de sabotage qui sont menés, en fait, depuis la victoire de la révolution islamique d'Iran de 1979 par les États-Unis et leurs alliés, très particulièrement le régime israélien. Vous faites allusion à ce point.
Ce sont des actes de sabotage. Et nous savons que c'est continu, que depuis la victoire, c'est-à-dire cette victoire de la révolution n'a jamais été acceptée, et à travers elle, ils ne cherchent pas, comme ils disent eux-mêmes, un changement de régime seulement. Ce n'est pas le régime qu'ils appellent clérical ou autre, ce n'est pas ça qui les touche. Ce qui les touche, c'est la capacité d'indépendance et la puissance présente et future de l'Iran. Alors là, ils peuvent trouver tous les arguments possibles et imaginables, mais en fait, c'est la puissance. Donc, ils en veulent non pas à la forme du gouvernement iranien, mais ils en veulent à l'existence même du pays.
Merci beaucoup, monsieur Eliatem, juriste français spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour cette émission Le Débat par Skype depuis Paris. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation et bonjour à M. Dorsiguier.
Maître Atem, venez d'entendre les explications de M. Dorsiguier. L'Iran, en fait, a mobilisé de ses moyens politiques et diplomatiques et également, au cas échéant, mobilisera ses moyens militaires pour riposter à cet assassinat lâche de ce savant nucléaire iranien, M. Farizadeh. Autrement dit, l'Iran est déterminé à punir les auteurs et également les commanditaires de cet assassinat de lâche et terroriste. Comment vous l'expliquez? Quelle évaluation portez-vous sur cette détermination du côté de Téhéran, Maître Atem, s'il vous plaît?
Vous savez, cet acte-là, c'est un acte terroriste. Deuxièmement, il faut, d'un point de vue juridique, il constitue une agression telle que l'agression est définie par la résolution du Conseil de sécurité et particulièrement plutôt de l'Assemblée générale des Nations unies. Ceci dit, pour chaque acte d'agression, on peut avoir un recours je dirais, juridique devant les juridictions internationales et devant les Nations Unies. Alors, le problème qui se pose, malheureusement, et c'est moi qui le dis, parce que du fait de ma proximité de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Ghali, malheureusement, le droit international public n'est plus respecté et c'est son existence même qui est mise en cause. C'est le retour, malheureusement, à la jungle internationale parce que nous voyons les choses telles quelles sur la scène internationale. Quand on voit les agressions, par exemple, américaines, par-ci, par-là, les agressions des alliés des États-Unis, que ce soit Israël, que ce soit la Turquie, qui aujourd'hui également menace l'est de la Méditerranée, et il n'y a jamais de sanctions à l'encontre de ces actes-là et des auteurs de ces actes-là parce qu'ils sont proches des États-Unis, parce que les États-Unis exercent une hégémonie sur l'organisation mondiale, ce qui fait que le droit international public n'est malheureusement plus appliqué. C'est ce qui conduit à des ripostes, je dirais des représailles qui sont prévues également par le droit international public, ce qui explique également la position iranienne. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que les téléspectateurs et les analystes, les observateurs doivent comprendre de cette réalité, qu'aujourd'hui, quand je le disais et quand je le dis, on me traite de complotiste, mais c'est la réalité sur le terrain. Il y a un travail d'organes, d'une machine, des services secrets qui opèrent dans la région du Proche et du Moyen-Orient, que ce soit en Iran et ailleurs. Vous savez, l'Iran quand même est un État qui est doté d'institutions assez fortes. C'est un pays où vraiment on compte, on fait ses comptes avant de faire un acte, de commettre un acte sur place. Alors que dire des autres pays? Et c'est ce que justifie, par exemple, quand j'expliquais l'attentat qui a été commis, l'explosion à Beyrouth, l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre, qui ont été faits par les services secrets, par le Mossad israélien, qui a des moyens sur les terrains et qui dispose d'agents sur le terrain. Quand on voit que le Mossad a disposé d'une complicité à l'intérieur même de l'Iran, que dire alors du Liban? Que dire de la Syrie? Que dire des autres endroits de la région? J'appuie également, et si vous le permettez sur ce point-là, Monsieur Dortiguet, c'est que l'objectif américano-israélien, ce n'est pas le changement d'un régime, soit en Iran ou en Syrie ou au Liban, mais c'est la création du chaos et c'est la provocation de la régression de ces civilisations et ces pays qui sont millénaires pour pouvoir les dominer et les soumettre, car c'est là le projet du judaïsme politique et donc du sionisme et des alliés de ce courant politique, c'est soumettre les gens. Nous l'avons vu également aujourd'hui avec cette politique de normalisation avec l'entité sioniste, c'est que tout a été fait pour soumettre ces pays. Et encore une fois soumis, on finit par leur trancher la tête. C'est ce qu'avait dit à l'époque d'ailleurs Donald Trump en parlant de l'Arabie Saoudite. C'est comme une vache à traire, on prend son lait et une fois qu'elle n'a plus de lait, on lui tranche la tête. Eh bien ça, c'est l'objectif de la politique israélo-américaine, je ne dirais pas américano-israélienne, parce que la politique étrangère américaine est téléguidée par le lobby sioniste qui est dans son intérêt de détruire, de soumettre l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient après les avoir provoqués chez eux une régression qu'on la voit aujourd'hui sur le terrain, problème de pauvreté, problème économique, problème financier. Et puis, ce qui justifie également l'existence d'agents qui vont travailler pour le compte des services américains ou les services israéliens et commettre ces crimes.
Monsieur Tortillier, je viens de faire allusion à ce plan de double urgence qui a été voté par le Parlement iranien. Ce plan de double urgence doit être confirmé également par le Conseil des gardiens de la Constitution pour devenir en fait effectif. Mais dans ce plan, les parlementaires iraniens s'adressent aux signatrices de l'accord nucléaire de 2015, très particulièrement les Européens et également l'Europe. Monsieur Dortiguet a condamné, c'est vrai, cet assassinat de terroriste de ce savant nucléaire iranien, mais le temps n'est-il pas venu, Monsieur Dortiguet, pour l'Europe pour en fait joindre, si vous voulez, de paroles aux actes également, Monsieur Dortiguet? Les Européens émettent des communiqués, mais il faut le dire, face aux États-Unis, également face de temps en temps au régime israélien, il y a quand même ce manque d'indépendance politique du côté de l'Europe, M. Dortiguet, n'est-ce pas?
Oui, en effet, c'est une, je me permets de juger, mais c'est une excellente formule, dire que c'est un manque d'indépendance politique de la part des Européens. Disons qu'ils n'ont pas de conséquences. Ils ne tirent pas une conséquence entre leurs paroles et leurs actes. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche cette conséquence, ce passage de la parole, de la pensée, à exprimer ainsi, à des actes forts qui permettraient à la fois, à l'avantage de l'Europe et à l'avantage de l'Iran et d'autres pays, disons, d'établir des relations stables et bénéfiques, tant aux Européens qu'à ces pays-là? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est uniquement, à notre avis, essentiellement, disons, la faiblesse financière de plus en plus grande de l'Europe. C'est-à-dire celle-ci est plongée, on le voit aujourd'hui, à travers des mesures, disons, de plus en plus contraignantes, puisqu'on peut être des arguments sanitaires, mais enfin, on parle d'un fameux reset, c'est-à-dire d'une sorte de rétablissement, enfin, de réorganisation, si je puis dire, de la société, avec, mettons, une sorte de diminution des capacités de la classe moyenne, par exemple, des petites entreprises et autres. Et ceci ne peut qu'affaiblir l'Europe. Si elle est entre les mains, justement, des grands groupes financiers internationaux. Et je crois que c'est cela que l'on sous-estime beaucoup. Nous avons le prestige de nos anciens États, bien sûr. Nous avons en même temps donc fait une grande chose, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre, depuis surtout le général de Gaulle chez nous, cette réunion franco-allemande, etc., cette réunion de l'Europe, qui est une très bonne chose. C'est une union des énergies, si je puis dire. Disons que comme il y a une faiblesse, il y a, comme on dit, un ver dans le fruit. Ce ver dans le fruit, c'est la faiblesse financière économique qui nous met entre les mains, justement, d'escrocs internationaux et de terroristes. Parce que, vous savez, le terrorisme, l'escroquerie est une forme de terrorisme contre notre économie. Mais, par exemple, quand nous voyons l'entité sioniste avoir une influence très grande dans les institutions européennes, quand on voit même tous ces gens qui ont formé cet État, qui ont été formés à l'école du terrorisme, qui ont enseigné même à nos propres cadres militaires comment former des terroristes, c'est-à-dire avec Daesh et autres. Vous savez, il y a une grande tradition terroriste. Vous savez, elle ne date pas d'il y a 40 ans ou 30 ans. Elle est très ancienne. Elle s'est exercée en Russie, elle s'est exercée en Europe même. Vous savez, avec le bolchevisme, par exemple. Eh bien, ceci, voyez-vous, nous montre notre propre état de faiblesse. Vous avez raison de le souligner. C'est l'intérêt des Européens de condamner le terrorisme, mais sont-ils forts? Il ne s'agit pas simplement de condamner une maladie, il faut également avoir une santé sociale, physique, morale. Et ceci, malheureusement, nous la perdons progressivement dans le monde occidental. Nous avons, vous savez, des proclamations comme celle de M. Macron, par exemple, qu'il a faite contre ce fameux droit au blasphème et autres, chose qui aurait été inimaginable chez nos anciens présidents, par exemple. Eh bien, nous y arrivons parce que nous perdons, disons, une confiance en nous-mêmes et en même temps la vue de grands idéaux. Nous marchons au petit futur et guidés justement par des financiers, eux, qui, en arrière-plan, dictent leurs lois et veulent former, disons, une sorte de société, disons, qui est évidemment une société, une sorte d'esclavage moderne, si vous voyez-vous, et avec, et le terrorisme leur sert de toile de fond pour pouvoir, justement, chez nous-mêmes en Europe, intimider les gens. Le terrorisme n'est pas seulement dirigé contre certains pays, il est dirigé en général, en fait, contre tous les pays. C'est une manière mondiale de gouverner. C'est pour ça qu'on les appelle des globalistes, des mondialistes. Ce sont en réalité qui s'appellent des néoconservateurs américains, qui s'appellent des trotskistes ou des antifascistes, voyez-vous, je cite tous ces noms. Ils ont en réalité, comme M. Soros par exemple, ils ont en réalité le terrorisme comme arme, comme intimidation. Ils ne veulent pas gouverner le monde, ils veulent intimider le monde.
Maître Atem, venant en fait de l'évoquer tout à l'heure, voilà, l'objectif c'est de créer le chaos au Moyen-Orient. Et l'idée ne date pas, Maître Atem, d'aujourd'hui ni d'hier, mais ça date d'avant-hier, Maître Atem. L'idée en était surtout abordée par la secrétaire d'État américaine de l'époque, Condoleezza Rice, en disant que voilà, la politique américaine consiste en fait à créer un chaos constructif dans la région du Moyen-Orient. Maître Atem, étant parfaitement conscient de ce point auquel venait en fait de faire allusion, l'Iran dit être déterminé à punir les auteurs, également les commanditaires. J'insiste sur le mot commanditaire de cet assassinat terroriste qui a coûté la vie à ce savant nucléaire iranien, Maître Atem.
Oui, effectivement, c'est que ce qu'il faut, vous avez très bien mis l'accent sur il ne faut pas punir l'exécutant, mais c'est le commanditaire, c'est-à-dire celui qui est derrière, celui qui provoque. Et je prends peut-être un petit exemple de ce qui se passe en Europe. En Europe, en particulier en France, il y a des actes de terrorisme qui sont commis par des types qui sont, qu'on les retrouve, la plupart du temps on les exécute, on les attrape pas vivants, je ne sais pas pour quelle raison, et sinon on les condamne, mais on ne cherche pas qui sont leurs commanditaires, autrement dit qui est la personne qui est derrière et qui les pousse à provoquer ces actes-là de terreur, parce que le terrorisme, c'est un acte de terreur qui fait peur et qui exerce une pression sur des gouvernements, sur des États, sur des décideurs, afin qu'ils prennent soit des décisions qui sont en faveur de la personne qui provoque ces actes-là, ou bien ne pas prendre certaines décisions. Et d'ailleurs, on voit, c'est pour cette raison d'ailleurs, que si vous le permettez, je reviens à ce qu'a dit M. d'Artiguet, c'est très intéressant, c'est qu'en Europe, en particulier en France, on exerce deux types de terrorisme. Il y a le terrorisme matériel, c'est-à-dire ces actes, soit des explosions, des attentats, soit des meurtres attribués à des terroristes qui exercent cette peur, cette crainte sur les décideurs politiques, ou bien il y a également, je dirais, un arsenal juridique et surtout aussi médiatique qui crée un terrorisme intellectuel et un terrorisme psychologique qui fait peur à certains. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si vous avez bien noté, c'est que en Europe et en France en particulier, on a très peu évoqué cet acte terroriste qui a conduit à l'assassinat de M. Varizadeh en Iran. Pour quelle raison? Parce que les médias en France sont placés sous le contrôle d'un certain lobby, de certains groupes de pression qui gomment en fait certaines informations. Alors ça n'aurait pas jamais été pareil s'il y avait un responsable israélien assassiné dans l'entité, au sein de l'entité israélienne ou l'entité sioniste, par un Palestinien. Tout cela pour vous dire, et on m'a traité de complotiste, on a monté toute une cabale contre moi parce que j'ai évoqué cela sur une chaîne de télévision et parce que j'ai dit la vérité, c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs publics en Europe, en France et puis dans le monde en fait occidental qui est sous le joug de ces groupes de pression ont peur, sont sous ce poids terroriste, je dirais, psychologique ou bien matériel avec ces actes-là qui lui font reculer. Et cela qui a une conséquence également sur les institutions et les instances internationales qui malheureusement ne font plus leur travail, ce qui justifie cette décision iranienne d'avoir recours à des moyens de riposte pour pouvoir, d'une manière proportionnelle, établir cet équilibre et répondre en fait à cet acte d'agression dont ils ont été victimes.
Maître Eli Atem, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Mes vifs remerciements vont également à Pierre Dordiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Afrique va se concentrer sur la coopération entre l'ONU et l'Union africaine, selon le gouvernement sud-africain. Alors que l'Afrique du Sud assume la présidence mensuelle tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 1er décembre. Elle se concentrera sur le renforcement de la coopération entre l'Union africaine UA et les Nations Unies ONU, a déclaré le ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération, DIRCO. Le DIRCO a dit que le pays soulignerait l'importance d'une approche proactive du maintien de la paix et de la sécurité internationale, notamment en attirant davantage l'attention sur les mécanismes de diplomatie préventive et sur la reconstruction et le développement post-conflit. Sur la base des cycles de rapports du Conseil de sécurité, d'autres réunions se tiendront concernant les situations en Afghanistan, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Palestine, en Somalie, au Soudan du Sud, en République du Soudan, en Syrie et au Yémen, a déclaré Clayson Monila, porte-parole du DIRCO. La participation de l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité en tant que membre élu s'inscrit dans le prolongement de son approche actuelle du multilatéralisme, guidé par l'expérience nationale du pays en matière de démantèlement pacifique de l'apartheid et de recherche d'un règlement politique agricole, a-t-elle souligné encore. L'Afrique du Sud est devenue le membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2019 et son mandat prendra fin en 2020. L'indépendance de l'Afrique est incomplète sans la pleine possession de ses ressources naturelles, selon le président zimbabwéen. La liberté et l'indépendance politique de l'Afrique demeurent incomplètes tant que le continent ne disposera pas d'un contrôle total sur ses richesses naturelles. Ressources naturelles, a déclaré le président zimbabwéen. Enfin, l'époque que nous vivons aujourd'hui en Afrique est l'histoire de la pleine possession et de l'utilisation de nos ressources afin de moderniser, d'industrialiser et finalement améliorer la vie de notre population, a-t-il expliqué encore. Le président Nangawa s'exprimait à la cérémonie de lancement de la construction du musée de la libération africaine dans la capitale Harare, un projet qui vise à documenter et préserver l'histoire des guerres de libération de l'Afrique.
à travers ce projet continental, mettons de côté les récits eurocentrés et unilatérales qui ont occupé trop longtemps l'espace public. Nous progressons ensemble, liés par les idéaux du panafricanisme, de la philosophie de l'Umbuktu et de la Renaissance africaine, via la documentation, la protection, la préservation et la promotion de la riche histoire de notre libération, a-t-il affirmé encore. Ce projet est mené par l'Institut de la connaissance africaine, une organisation panafricaine de recherche en collaboration avec le gouvernement du Zimbabwe. Le musée a reçu les soutiens significatifs de la Chine, de la Russie et de l'UNESCO en faveur de ce projet historique. La Chine a promis de verser un capital de démarrage et a depuis invité les acteurs zimbabwens du projet à se rendre en Chine afin de profiter de l'expérience chinoise sur la manière de réaliser des projets d'une telle ampleur. Plusieurs pays africains ont aussi déclaré qu'ils soutenaient le projet de musée sur la libération du continent. La construction de ce musée n'a pas pour objectif de nous piéger dans le passé. Il doit nous permettre d'utiliser notre histoire pour apprendre du passé et de définir un avenir meilleur pour les prochaines générations, a-t-il assuré encore. En Libye, de profondes divisions subsistent sur le choix d'un nouvel exécutif de transition. Près de 2 mois après la signature d'un cessez-le-feu, la représentante spéciale de l'ONU par intérim, l'américaine Stephanie Williams, ne parvient pas à concilier les deux parties qui ont encore du mal à s'accorder sur les noms des futurs dirigeants de la transition. Or, tant qu'un accord sur un nouvel exécutif unifié n'est pas trouvé, le sort du dialogue libyen reste incertain. Ces désaccords ont surgi avant même la tenue du premier round du dialogue politique à Tunis. Certains groupes contestent la légitimité des 75 délégués qui participent au dialogue, devant aboutir à un accord pour l'organisation d'élections prochaines. Mais le choix d'un nouvel exécutif n'est pas le seul point de discorde. La distribution de postes à la tête d'institutions stratégiques comme la Banque centrale ou encore la Compagnie nationale de pétrole divise également. Khartoum menace les États-Unis de revenir sur la normalisation. Le New York Times a rapporté que l'accord de normalisation entre le Soudan et le régime israélien est sur le point de s'effondrer 1 mois après sa signature. Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan, a déclaré lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo que si le Congrès des US ne ratifiait pas une loi plus tard ce mois-ci pour protéger le Soudan contre des poursuites judiciaires des familles des victimes des attentats du 11 septembre, le Soudan ne ferait pas avancer l'accord destiné à normaliser les relations avec le régime israélien. Citant une source bien informée, le New York Times a souligné que le secrétaire d'État américain avait assuré à Al-Burhan que la loi d'immunité soudanaise serait adoptée dans les semaines à venir. Mais le journal a en outre souligné que le Congrès était dans une impasse sur l'adoption de cette loi qui empêche le Soudan de verser des indemnités aux victimes du terrorisme. L'administration Trump, qui passe ces derniers jours à la Maison-Blanche, prévoit d'organiser fin décembre une cérémonie officielle pour l'accord de normalisation entre le Soudan et le régime sioniste. Mais les choses se compliquent diablement. Le secteur privé est essentiel pour réaliser le programme de développement durable en Afrique, selon l'ONU. Les gouvernements africains doivent tirer profit du capital, de la technologie et de la main-d'œuvre de l'industrie afin d'accélérer la réalisation du progrès de développement durable et la reprise post-pandémie sur le continent, a déclaré, c'était jeudi, une note responsable des Nations Unies. Amina Mohamed, vice-secrétaire général de l'ONU, a affirmé que des investissements ciblés de la part des entreprises africaines étaient nécessaires pour accélérer la croissance inclusive sur le continent dans un contexte de choc économique lié au Covid-19. Le secteur privé en Afrique doit saisir l'opportunité d'investir de manière durable et de créer un continent paisible et prospère qui soit également résilient au choc entraîné par la pandémie, a-t-elle indiqué. Elle s'exprimait lors d'un sommet virtuel afin de discuter du rôle des entreprises dans la réalisation de principaux objectifs de développement durable de ODD en Afrique, tels que l'éradication de la pauvreté, la santé et l'égalité des genres. Plus de 2000 délégués, y compris des décideurs politiques, des donateurs et des militants, ont participé au sommet d'une journée qui se tenait sous le thème « Unir les entreprises pour l'Afrique » que nous voulons une décennie d'action et d'opportunités. Le sommet a été organisé par le Pacte mondial des Nations Unies en collaboration avec des réseaux africains du secteur privé et a porté sur les interventions dirigées par le marché qui peuvent revitaliser le programme de développement durable sur le continent. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la Radio Francophone Iranienne.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.